Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, depuis le festival de la radio et de l'écoute, longueur d'onde.
En direct du studio 511 de la Maison de la Radio et de Brest, une émission réalisée par Céline Hila, assistée de Lucille Valérie avec Florent Beauvallet à la technique aujourd'hui.
Au sommaire cette semaine, une autre vision de la politique pénale, loin du tout carcérale, avec deux programmes pour donner du sens à la peine. À Saint-Denis, il y a des stages de citoyenneté comme alternative à la prison et à la maison centrale de Poissy, la justice restaurative, rencontre entre détenus et victimes pour réparer le lien social.
En fait, le seul truc que je regrette, je crois, c'est mon casier judiciaire parce que j'ai toujours voulu avoir une vie normale, en fait, sans casier. Je pensais jamais me retrouver dans cette situation-là, vous voyez, parce que j'ai tiré sur quelqu'un. Non.
Je voulais vraiment essayer de comprendre comment on pouvait en arriver là et qu'est-ce qui avait fait qu'un jour, ils commettent l'irréparable. Fermez vous.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux la voix du coup ?
À Brest, on fête les 15 ans du festival Longueur d'onde, le festival de la radio et de l'écoute. Et on a plein de bonnes raisons d'être là. Découvrir la fiction radiophonique Demain s'ouvre au pied de biche, réalisé par les lycéens de Douarnenez avec Alexandre Planck, c'est excellent.
C'en est fini de l'argent public attribué aux hôpitaux, aux écoles et aux entreprises. C'est une rupture violente et déterminée. La commune de Douarnenez se voit désormais privée de tout financement public.
On a essayé de nous affamer.
De nous mettre au banc.
De nous exclure du grand roman national.
On nous a traités de tous les noms et on n'avait plus un sou. Mais d'une manière ou d'une autre, on a eu ce qu'on voulait. La liberté totale d'inventer autre chose, de rêver un peu, de chercher des alternatives. Et finalement, en ville, on en est venu à considérer tout ça comme un acte de sécession.
Demain, s'ouvre au pied de biche.
Allez voir aussi Là-bas si j'y suis, bien évidemment, en direct et en public. C'était hier soir, à Brest, au Festival Longueur d'onde. Salle comble, merci Daniel. De la maison aussi, de la maison de la radio, sont là Augustin Trapenard, Marie-Pierre Planchon. Mais oui, c'est ici que ça se passe. Olivia Gesbert, de France Culture aussi. Et j'en passe, vous m'excuserez, parce qu'on l'aime, notre radio de service public, et on la défend avec nos micros et nos pieds de biche. Beaucoup de radios associatives et indépendantes aussi sont à Brest. Radio Quartier Libre, Radio Larzac, Radio Uze, Radio Canu aussi et sa méga combi ce soir en public au Petit Théâtre du Quartz et en direct sur Radio Canu à Lyon. Ça va être bien. Et nous, comme un bruit qui court, on est là aussi puisque le reportage de Charlotte Perry sur la justice restaurative est en sélection pour le prix Grandes Ondes de cette 15e édition du festival. Et justement, on va vous le proposer tout à l'heure.
Oui, des détenus et des victimes qui se rencontrent et qui se parlent. C'est l'un des dispositifs de la justice restaurative. Une justice pour apaiser les souffrances et tenter de prévenir la récidive, loin de l'illusion du tout carcéral, une autre vision donc de la politique pénale.
Et justement, prévenir la récidive, c'est une des missions des SPIP que l'on retourne voir avec Give.
Oui, suite de notre reportage sur les alternatives à l'enfermement dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis. Les SPIP, vous les avez probablement moins entendus que les surveillants de prison ces derniers temps, même s'ils étaient eux aussi mobilisés cette semaine. Car si les gardiens doivent gérer la cocotte minute de nos prisons surpeuplées, les SPIP, eux, ont pour mission d'éviter de les remplir. Une tâche essentielle et semble-t-il trop négligée puisqu'ils ne sont que 4000 conseillers pour suivre 250 000 personnes sous main de justice. Il faut dire que c'est une mission lente et difficile, rarement spectaculaire, avec des jeunes et des moins jeunes aux marges de la loi et qui jettent sur elle un œil parfois désabusé. Alors pour éviter la récidive et favoriser la désistance, l'arrêt des parcours de délinquance, on y organise des stages de citoyenneté où policiers, magistrats et acteurs sociaux viennent échanger sur le droit et le contrat social avec les personnes condamnées. Ici, dans le 93, département le plus pauvre de France, où la directrice nous reçoit, c'est l'occasion de croiser des parcours plus ou moins tortueux de ceux qui ont affaire à la justice et doivent retrouver une place dans la société.
Comme un bruit qui court, stage de citoyenneté et justice restaurative, une autre vision de la politique pénale, c'est jusqu'à 17h sur France Inter.
On commence par la photo.
Ouais. Okay. Excusez-nous, on éteint les portables. Donc on va reprendre.
Exécuter un travail d'intérêt général auprès d'une commune ou dans le cadre d'un stage de citoyenneté, à mon sens, ça a peut-être plus de sens que d'incarcérer une personne 15 jours ou un mois.
Je suis pas une criminelle, hein.
je suis pas non plus une personne qui est renfermée, qui connaît rien. Non, je sais très bien c'est quoi la citoyenneté, je sais très bien c'est quoi vivre ensemble.
C'est important effectivement aussi pour ces personnes-là, un, d'éviter qu'ils soient incarcérés, d'autre, de restaurer le dialogue.
Aujourd'hui, on rencontre deux magistrats où elles nous expliquent leur travail au quotidien. C'est vrai qu'avec des exemples bien précis, on comprend mieux leur travail.
Vivent-ils?
T'as pas entendu comme un bruit?
Charlotte Perry.
Comment?
Antoine Chao.
Hashtag comme un bruit.
À partir du moment où tu choisis la rue, bah, faut être un bonhomme en fait.
Bonjour. Bonjour, vous allez bien?
Donc là, vous êtes au siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est constitué effectivement d'une directrice, en l'occurrence moi, donc mon bureau, et mon adjointe, et puis les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation du milieu ouvert et du milieu fermé.
Et alors, ce que vous proposez ici, enfin, ce que le SPIP propose, c'est la prison sans les barreaux.
À peu de choses près, c'est un peu ça. C'est une sanction, enfin, c'est une autre forme de réponse pénale que l'emprisonnement. C'est vraiment la mission fondamentale, c'est d'éviter l'incarcération et de proposer une prise en charge autre que l'incarcération, que la personne ne récidive pas. C'est l'objectif.
Si j'arrive, ouais. On va vous donner une petite carte, comme ça vous avez.
Le script de la SNCF, bonjour.
Bonjour.
Tout à fait.
Ok, vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît?
Eh ben, non,
oui, juste derrière vous quand vous rentrez, c'est là. Monsieur, installez-vous. Maintenant, ah rendez-vous, elle devrait pas tarder.
Vous envoyez un message?
Oui.
Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Le rez-de-chaussée, il est réservé à l'accueil du public. Également à l'animation, donc des stages de responsabilisation des auteurs de violences conjugales, le stage de citoyenneté, qui vise à favoriser le dialogue, à laisser effectivement les personnes exprimer voilà, ce qu'elles ont pu ressentir pendant le procès, mais surtout de rappeler le cadre. Voilà, parce que c'est pas toujours simple, surtout quand ils viennent d'être condamnés. Puis souvent, lorsque la condamnation est posée, c'est vrai qu'on n'est pas dans le temps de l'explication, on est dans le temps du choc et le temps de la gestion des émotions. Et nous, on est là pour redonner un peu du sens, voir comment ils peuvent faire en sorte que ça ne se reproduise pas.
Kamel, c'est bon, vous pouvez y aller.
Bonjour. Ça va?
Ouais.
Bonjour.
Bon, nous en fait c'est la deuxième fois qu'on se voit.
Ouais. Bah, entre temps j'ai fait les démarches à la mission locale pour être petit jeune.
Je vais essayer de rester tranquille jusqu'à que mon sursis se termine. Et après ensuite encore.
Ensuite encore, ouais, j'allais rajouter ça parce que sinon.
Ça veut dire qu'il faut rester dans les clous pendant 2 ans sûr.
Ouais, exactement.
Bah même l'argent facile, c'est pas facile.
C'est violent hein, l'argent facile.
Ouais, c'est violent. C'est violent, mais faut pas faire n'importe quoi. Il y a une loi de l'offre et la demande comme partout, il y a des risques comme partout, il y a des avantages et des inconvénients. Et ouais. Les inconvénients, ils sont terribles, surtout si c'est des longues peines.
Maintenant, vous savez que vous n'avez plus le droit à l'erreur.
Ouais, maintenant je sais que si là je me fais attraper, c'est fini. Ouais. On se prépare mentalement, hein. Faut pas se faire attraper, faut arrêter les conneries.
Oui, c'est pas la même chose quand même.
Ouais, c'est pas la même chose. De toute façon, les condamnations, elles tombent pas dessus comme ça sans qu'on ait rien fait.
Exactement.
Ça marche. D'autres choses ou c'est bon?
Non, c'est bon.
Je fais la copie de ça, ça, et on va chercher les convocations.
La convocation avec nous.
Et bien, c'est parti.
Pas de soucis.
Voilà.
D'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait passer comme musique?
Ah bah tapez Speed sur YouTube, vous allez voir ce qui va sortir. Mais il n'y a pas que des choses positives, mais enfin, vous pouvez vous amuser. Hein. Allez, à bientôt.
Comme d'hab, c'est pas moi, je vous jure que j'ai rien fait, madame la spip. On était des gosses, on avait pas de slip. Pour devenir des boss, on a refait la spip. Tiens, Paul, mon pote me dit, faut niquer la spip. Depuis tout petit, on fait la serre à l'estime. Mon négro, j'ai trop souffert, charbonné dans ma street. Du bureau de la principale jusqu'au bureau de la spip.
Je me roule un petit, rien à dire à part nique la spip. Elle bloque toutes les après-midi du petit Walid. J'en ai rien à foutre, j'mets de l'autotune sur ma voix lead.
Bouffon, prépare ton speech si tu vas chez la spip, pip, 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 pip.
Faire des chiens dans ton slip. Voir que le speed, que la jappe taille une pipe à moi et toute mon équipe. Dans le crime on s'équipe. Voir que l'artiste, je n'ai hip ni hop, je suis juste un brave type.
Oh,
nous avons également, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un stage de citoyenneté qui dure 4 jours et qui s'adresse en général à des personnes condamnées à des peines de travail d'intérêt général ou qui ont comme obligation d'effectuer un stage de citoyenneté. Et nous faisons venir, vous allez certainement pouvoir y assister, différents partenaires, notamment la police, notamment le parquet, notamment des associations, pour évoquer le lien social, pour parler, pour restaurer le dialogue et pour effectivement reparler des valeurs républicaines, tout simplement, et se saisir en fait de la peine comme un levier de réflexion sur justement le rapport à l'autre, sur le rapport à l'autorité, sur le rapport à la société. Voilà, c'est de leur dire effectivement qu'ils sont responsables, ils ont commis une infraction, ils sont ici, il faut qu'ils se saisissent de ce moment pour échanger, mais aussi pour entendre que la loi, elle doit être posée pour tout le monde et qu'ils ont franchi une limite. Donc voilà, c'est un petit peu l'objectif de ce stage.
C'est pour quel genre de peine ?
Alors, ce sont souvent des personnes qui ont été condamnées à des peines de TIG, donc travail d'intérêt général, et en général, elles sont prononcées pour des incivilités, des recels, des outrages, voilà, des peines considérées comme mineures qui, pour autant, génèrent beaucoup de sentiments d'insécurité auprès de la population. Donc c'est important, effectivement, aussi pour ces personnes-là, un, d'éviter qu'ils soient incarcérés, d'autre, de restaurer le dialogue. Et c'est tout l'objectif de ces stages de citoyenneté.
Essayer de rattraper, de réparer tout ce qui n'a pas pris.
C'est ça. Puis d'apaiser aussi, d'apaiser certaines tensions entre les jeunes et les moins jeunes, entre l'institution et effectivement les personnes qui peuvent se sentir des fois à côté de la société, clairement. Je vais vous présenter les partenaires. Bonjour madame.
Action collective.
Bonjour.
Bonjour.
Juge d'application des peines. Stage de citoyenneté.
Oui, vous êtes le procureur.
Oui, moi je suis procureur à Bobigny.
Et alors, vous, normalement, c'est vous qui requérez? C'est vous qui le faites condamner?
Oui, mais ça n'empêche pas qu'on est quand même très intéressé par tout ce qui peut être prévention et réinsertion. Je pense que c'est le travail, surtout du juge d'application des peines, mais du rôle du parquet qui travaille avec l'application des peines.
Voilà, de voir où ça va après, quoi.
Voilà. Ouais. Et donc, Madame Koska, ça...
Juge de l'application des peines. Alors, c'est le magistrat qui s'occupe de la mise en œuvre de la condamnation. Donc, notre mission, c'est d'éviter la récidive, favoriser la réinsertion du condamné et préserver les intérêts des victimes.
Voilà. Donc, bon, écoutez, merci beaucoup,
mesdames.
Merci. Ça bouge chez nous. Un stage plutôt que d'aller devant le juge et éventuellement en prison. Les peines alternatives se développent. Une semaine confrontée aux réalités de la vie quotidienne des différents services publics qui sont habituellement la cible des actes de délinquance.
Vous voulez parler.
Vous êtes à un stage de quoi, là ?
Stage de citoyenneté.
Et c'est quoi, stage de citoyenneté ?
Moi, je sais pas à quoi ça consiste.
C'est un stage qui te permet de te faire comprendre qu'est-ce qu'un citoyen français. Pour les jeunes comme nous qui ont un peu bifurqué dans la jeunesse. Et à l'heure d'aujourd'hui, ils nous proposent un stage pour pouvoir remonter la pente, on va dire. Moi, je m'appelle Ali, j'ai 22 ans.
22 ans ?
Catherine.
J'ai 21 ans. C'est ma première condamnation. J'ai eu 6 mois de sursis à compter de 2 ans. Je dois pointer 3 fois par semaine. J'ai pas le droit de quitter le 93. Et voilà. J'ai une vie, quoi. J'ai des passions.
Voilà. Boulot ?
Non, j'ai jamais travaillé, par contre, non. Je fais du sport à haut niveau, je fais de la boxe thaïlandaise. Je voulais en faire mon métier, mais mes parents, ils étaient pas trop d'accord parce que je suis une fille, j'ai une marque, là.
Ah oui, c'est vrai, il y a un petit bobo, là, un petit sous le soleil.
Ouais, donc voilà. Enfin, après, je suis mariée, ça fait 5 ans, j'ai une petite fille de 1 an et 3 mois.
Ah ouais, donc vraiment dans la vie, déjà. Comment vous êtes retrouvée embarquée dans ce stage ?
À cause de ce que j'ai fait.
Et on peut dire c'est quoi ou on peut pas dire c'est quoi ?
Je sais pas si je dois le dire, mais voilà, j'ai quand même tiré sur quelqu'un. J'ai tiré sur quelqu'un, même si ça n'a pas touché. Mais en fait, c'était une vengeance, parce que c'était par rapport à mon frère. En fait, dans ma famille, on est très protégés. Voilà, c'est mon frère, c'est ma vie, en fait. Maintenant, lui, il a choisi la rue.
Ah bon ?
Ouais, il a choisi la rue. Et moi, je lui ai dit, à partir du moment où tu choisis la rue, faut être un bonhomme, en fait. Même si c'est pas le bon chemin. Et ça, je lui ai toujours dit, je serais jamais d'accord avec toi, en fait, sur ce fait-là. Parce que c'est pas une vie d'aller dehors et de vendre ce que t'as à vendre, en fait.
Lui, il fait guetteur ou il fait vendeur ?
Non, il vend sur un terrain et maintenant, je regrette pas ce que j'ai fait parce que cette personne-là, elle l'a mérité.
C'était un autre dealer ?
Ouais, en fait, je travaillais pour lui, il lui a fait énormément de mal, mon frère, il est venu, il était balafré partout, il avait la tête, elle était gonflée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est mort, mais je vais aller le massacrer, en fait. Donc voilà.
Ah ouais, quand même, la bagarre et tout ça.
Non, mais la bagarre, c'est parce que c'est tout à fait normal. Enfin, je sais pas, c'est tout à fait normal, en fait. Je vais pas. Parce que mon frère, il s'est fait taper, je vais aller voir la police. Oh, mon frère, il s'est fait taper. Bah non.
Et ce qu'il faut que je précise, parce que c'est de la radio, c'est que vous faites 1m50.
1m53.
Pardon, excuse-moi.
C'est pas grave.
Et maintenant, on est en stage de citoyenneté.
De citoyenneté, mais maintenant, après, la citoyenneté, moi, je suis pas une criminelle, hein. Je suis pas non plus une personne qui est renfermée, qui connaît rien, non. Je sais très bien c'est quoi la citoyenneté, je sais très bien c'est quoi vivre ensemble. En fait, le seul truc que je regrette, je crois, c'est mon casier judiciaire, parce que j'ai toujours voulu avoir une vie normale, en fait, sans casier. Je pensais jamais me retrouver dans cette situation-là, vous voyez, parce que j'ai tiré sur quelqu'un, non. Moi, je suis pas une fille qui va dans le quartier, je suis pas du tout comme ça en fait. Moi, le quartier, tout ça, les dealers, non, je déteste. Moi, c'est rester chez moi avec ma fille, aller faire mon sport, point final. Maintenant, le quartier, voilà. Voilà, c'est bon. Bah, voilà.
Foutre, tu viens d'où? 15 coups dans la gueule, j'ai la main lourde, je déterre ta grand-mère et la viole comme chienne. Et si t'es pas content, je viole ton père. Prêt pour la tour, je te pisse dessus et je te brise le cul, petit fils de pute. C'est la guerre, espèce de petit bâtard. N'aie pas peur et crème, petit à taille, que des bâtards de barbares. Sur la tempe, au tempère, pédale de merde, j'appelle à la haine, au meurtre, au viol et à la tuerie, au massacre, à la furie, on n'a pas que des bâtards de barbares. Yeah, 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 que des bâtards de barbares. Yeah, yeah, que des bâtards de barbares. Tu cries comme une pute, ta peau se décolle.
Couvert de lutte contre la récidive, on va envoyer un message d'impunité qui va affaiblir la force dissuasive de la sanction. C'est le sens de punir ceux qui ne respectent pas la loi.
C'est un projet qui repose sur une grande part d'angélisme et qui lance un message de laxisme extrêmement dangereux pour la sécurité de nos concitoyens.
Hop, hop, oui, qui court, qui court, qui court, qui court.
Excusez-nous, on éteint les portables, s'il vous plaît. Donc on va reprendre. Donc voilà, avant la pause, donc Madame Peugeot expliquait un peu ses missions, hein, au sein de, en tant qu'élue. Et maintenant, Madame Nejar peut se présenter.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis donc Madame Nejar Zaya, je suis adjointe au maire, j'ai en charge l'action sociale et solidarité sur la ville de Stein. J'y ai grandi, j'y habite encore. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier du Clos Salazar sur la ville de Stein pour certains. Je suis rentrée dans la politique pas par hasard, on va le dire comme ça, pas par hasard. Et en fait, ce qui m'a donné le déclic, c'est quand j'étais au collège, quand j'étais gamine, qu'un de mes camarades a subi une injustice, il a été renvoyé pour une faute qu'il n'avait pas commise. À ce moment-là, moi, je me suis soulevée en disant au professeur, c'est pas juste. Et mon professeur, il m'a sorti une phrase qui a tout déclenché. Il m'a dit, Madame Nejar, vous apprendrez que le monde est injuste et c'est comme ça. Et là, d'un coup, ça m'a réveillée. On a mobilisé tout le collège. Et donc, on est resté comme ça toute une journée pour faire réintégrer le camarade. Et le camarade a été réintégré. Et là, ça a été déclencheur dans tout ce qui a suivi dans ma vie. Parce qu'après, je me suis engagée dans la vie associative. Je me suis engagée en politique parce que je porte des valeurs. Voilà, des valeurs de solidarité, des valeurs de justice, d'égalité, de fraternité. J'y crois. On est porteur de valeurs. On s'engage parce qu'on a envie que les choses changent. Quand on veut se faire entendre, il faut se mobiliser. C'est le groupe qui fait la force. Moi, je refuse de baisser les bras. De me résigner. Hors de question, d'accord ?
61% des détenus sortant de prison sont réincarcérés dans les 5 années qui suivent. Un chiffre qui monte à 63% en cas de sortie sèche, sans le moindre aménagement de peine, ni accompagnement. Apparemment, le passage par la case prison n'est pas franchement dissuasif. En revanche, seuls 39% des prisonniers bénéficiant d'une libération conditionnelle retournent en prison dans les 5 ans, un taux qui tombe à 32% pour les condamnés avec sursis et mise à l'épreuve. Laxisme ou efficacité ?
Voilà, c'est la fin de la matinée de stage.
Ouais, c'était sympa, c'est instructif. Les deux élus nous ont expliqué pas mal de choses que forcément on ne connaissait pas. Puis je vois qu'elles sont vachement impliquées. Et voilà, quoi, c'est vraiment impressionnant, quoi.
Ouais. Vous, c'est quoi votre prénom ?
Moi, c'est Assef. J'ai 37 ans. Je viens de les avoir là, tout juste, au mois de janvier. Je suis ici pour des délits que j'avais commis en 2002.
Ah, c'est loin !
Ouais, c'est vachement loin, c'est ça qui m'a surpris aussi. En fait, j'avais plusieurs affaires de 2002 qui avaient mal été coordonnées, j'avais des peines à faire que je n'avais pas faites.
Donc quand vous aviez la vingtaine, quoi.
Voilà, quand j'avais la vingtaine, et ça m'est retombé dessus 15 ans plus tard, quand j'avais avancé dans la vie, j'avais pas mal évolué tout ça, même professionnellement, même dans ma vie de tous les jours. Et donc ça m'a fait un choc déjà de refaire une garde à vue, chose que j'avais plus l'habitude. La dernière, j'avais 24 ans quand ça m'est arrivé, ça faisait un peu bizarre.
C'était pour quel genre d'affaire ?
C'était pour un vol aggravé. Ouais. Pour vous dire, je ne me rappelais même plus de l'affaire. La juge aussi m'a dit c'est pourquoi. Je lui ai dit, madame la juge, je ne me rappelle même plus. Ça remonte à 2002, vous savez. J'ai fait des bêtises quand j'étais jeune et je ne me rappelle pas forcément de toutes les bêtises. Et donc là, elle m'a reconvoqué la juge d'application des peines pour qu'on discute comment on pouvait aménager ma peine. La moitié de ma peine, elle me l'a emménagée en amende forfaitaire. Et le reste de l'amende, elle m'a dit il faut faire un stage de citoyenneté que j'ai trouvé pas mal. Puis là, au moins, c'est instructif et on en ressort avec quelque chose dans la tête.
Parce que vous avez parlé avec des policiers municipaux, des politiques, des associatifs.
Ouais, on a parlé avec des policiers, des personnes de la mairie, puis avec les élus. C'était ça le plus intéressant parce qu'on a vu vraiment leurs convictions, leurs valeurs et tout ça. Et moi, je pensais que les élus n'étaient pas du tout comme ça, qu'ils pensaient vraiment à leur côté politique, à leur gueule à eux, à s'en sortir, à leur parti. Mais quand je vois la dame, par exemple, de Stein, là, qui s'est vachement impliquée, ça m'a changé un peu. Et ça m'a peut-être envie d'aller à un conseil municipal, parce que je vois des choses dans ma ville qui ne vont pas forcément. Donc j'aimerais en discuter avec la municipalité, puis de parler et de dire les choses qui ne vont pas. Essayer de trouver des solutions, surtout. Et cette dame-là, en l'écoutant, ça m'a vraiment motivé, ça m'a donné envie d'aller à un conseil municipal. Au lieu de subir, s'engager, s'exprimer, de faire valoir ce qu'on a envie de dire, nos valeurs et nos façons de penser, tout ça.
Et d'être un bon citoyen.
Et d'être un bon citoyen modèle et faire mon stage de citoyenneté en paix, tranquillement. Donc voilà.
On a fait des erreurs.
Toujours en matière de justice, intéressons-nous à une condamnation symbolique, mais qui fait beaucoup parler.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'un stage de citoyenneté ? En fait, c'est une mesure qui existe depuis 3 ans, encore assez peu appliquée.
Le stage de citoyenneté n'est pas un gadget, mais une peine inscrite dans la loi depuis 2004. Il fait partie de l'arsenal à la disposition du procureur pour ceux qui font face à la justice pour la première fois et pour des délits mineurs. Devoir vis-à-vis de la société, mais aussi tolérance et respect des autres, des valeurs républicaines constamment rappelées au cours de ces stages.
Excusez-moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas faire du laxisme, tout ça ? Est-ce que c'est pas être trop coulant avec des gens qui ont commis des délits et qui représentent un danger pour la société ?
Non, parce que je pense qu'il faut pas raisonner en termes de laxisme, mais en termes d'efficacité de la sanction pénale. Si on ne pense la sanction qu'à travers le nombre de mois qu'elle passe en détention, et qu'on ne la pense pas à travers ce qu'ils vont devenir quand ils vont sortir de détention, on passe à côté du sens de la peine, qui est effectivement, un, de poser une sanction à un acte commis, mais également de préparer la personne à être des citoyens lambda lorsqu'ils vont pouvoir sortir et qu'ils puissent se réintégrer dans la société civile. Être condamné, ce n'est pas une fin en soi. En tout cas, ce qui est prouvé, c'est que l'emprisonnement en tant que tel n'est pas non plus d'une efficacité redoutable. Voilà, donc il n'y a pas juste mettre à l'écart. Il y a mettre à l'écart et la mission principale, c'est de faire en sorte de prévenir la récidive, clairement. Voilà. Tout simplement.
Et là, c'est là où il faut éduquer les politiques à être un peu plus courageux vis-à-vis de leurs électeurs.
C'est vous qui le dites. C'est pas moi.
Du courage politique, il en faudrait, oui, parce que c'est quand même étrange cette propension à croire que la violence de l'incarcération, la longueur des peines, l'enfermement à tout prix vont remettre les délinquants dans le droit chemin, malgré les chiffres et les professionnels du secteur qui démontrent systématiquement le contraire.
Et voilà pourquoi les SPIP étaient ce jeudi eux aussi dans la rue pour ne pas être les oubliés de la pénitentiaire. Mais c'est vrai que punir est toujours plus rapide et plus spectaculaire que réparer ou réinsérer. La preuve, les raccourcis simplificateurs ont la peau dure, surtout quand ils se font au nom des victimes. Comme nous le disait samedi dernier, ce surveillant pénitentiaire FO rencontré devant la prison de Châteauroux.
Est-ce que vous avez demandé à l'avis des victimes? Ce serait intéressant de savoir aussi leur opinion sur ce coup-là. Est-ce qu'on a demandé à ces gens-là comment ils ont fait pour se relever et comment le système a fait pour leur donner un coup de main pour se relever?
Eh bien justement, on va y aller à la rencontre des victimes et on va leur demander leur avis. Car on va s'intéresser à la justice restaurative et plus particulièrement à l'un de ces dispositifs, les rencontres détenus-victimes. Et n'en déplaise à ce surveillant pénitentiaire, leur discours n'est probablement pas celui auquel ils s'attendraient.
Faire se rencontrer des victimes et des auteurs de délits, voire de crimes, cette pratique très développée au Canada, mais extrêmement rare en France, porte un nom.
La justice restaurative.
Cette justice restaurative, elle nous vient de pratiques ancestrales. C'est une rencontre, c'est un dialogue.
Je voulais vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui avait fait qu'un jour ils commettent l'irréparable.
La garde des Sceaux, Christiane Taubira, y est favorable.
La dignité doit rester au cœur de la pénalité. La dignité de la victime, la dignité du condamné qui doit pouvoir réintégrer le corps social.
J'ai la sensation d'être libre alors que je suis incarcéré parce que j'ai pu réintégrer la société en un sens.
Introduite en France par la loi du 15 août 2014, la justice restaurative mise sur les rencontres entre détenus et victimes pour apaiser les souffrances, panser les plaies laissées béantes par le procès pénal et in fine réparer le lien social. Une expérience bénéfique pour tous. Car aussi longue soit la peine, les détenus ont vocation un jour à réintégrer notre société. Et si la prison abîme l'homme, le dialogue avec les victimes, lui, restaure l'humanité. Un préalable essentiel pour ne plus recommencer. Pratiquant ancestrale venue des Inuits et des Maoris, réintroduite dans le monde anglo-saxon dans les années 70 et expérimentée en France à la Maison Centrale de Poissy depuis 2010, la justice restaurative offre une autre vision de la politique pénale, une autre vision que l'illusion du tout carcéral. Direction donc Vitry-le-François à la rencontre d'Alain qui a participé à ces rencontres.
Mon épouse, Sylvie.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Je m'appelle Alain Guilloni. J'ai 66 ans et ancien éducateur avec les handicapés mentaux. Alors, ce qui est arrivé, bon, en fait, le drame qu'on a vécu, Sylvie et moi, c'est que ben, notre fils, Fabien, bon, il avait 20 ans, il venait d'avoir le bac quelques mois plus tôt, et il venait d'entrer à la fac de sport, donc à l'ISTAPS à Reims. Un mardi du mois de novembre, le 21 exactement, il avait l'habitude d'aller manger à un petit restaurant universitaire sur Reims, c'est un quartier qui ne pose aucun problème particulier. Mais malheureusement, il y avait un jeune qui sortait de prison quelques mois avant. Fabien se retrouvait là, attendait à la sortie de ses copains de Vitry. Et ce gars-là est tombé sur lui, et pour un racket de Walkman, sans que notre fils comprenne, il lui a mis une balle dans la tête. Et il a été enterré une semaine plus tard, quoi. Donc, 20 ans, la vie lui tendait les bras, quoi. Et là, le monde s'écroule. Nous, on a la perpète, là. Nous, on nous demande pas quand est-ce qu'il reviendra. Le jour où il a été assassiné, la page, elle s'est tournée et il reviendra jamais à la maison. Alors que le meurtrier, ben, un jour ou l'autre, il se retrouve en liberté. Ce jeune homme-là, bon, Fabien avait 20 ans, lui, il avait 21. Il a été condamné à 20 ans, dont les deux tiers incompressibles. Alors aujourd'hui, il est libre, hein, il a été libéré au bout de 15 ans. C'est quelqu'un, bon, qui, quelque part, on a mis un voile dessus, quoi. Il nous intéresse pas. Il nous a cassé notre vie. Enfin, c'est ce qu'on ressent encore aujourd'hui, quoi. Je souhaite ne plus jamais avoir à le rencontrer et à entendre parler de lui. C'est comme ça, hein. Quand il est sorti du palais de justice à Reims, il était en colère. Et ce qu'il a dit, bah, pour me venger, quand je ressors, j'en claque un. Bon, il l'a pas fait, c'est déjà bien pour lui, mais vous voyez, quand un jeune comme ça se prend une peine de 20 ans pour un acte aussi grave que ça, ça veut dire quand il sort, il n'est pas calmé, il n'a pas compris. Il a besoin de se faire entendre encore la réalité de la vie, quoi.
La justice restaurative, au travers des mesures qu'elle met en œuvre, offre aux protagonistes du crime, les auteurs, les victimes, leurs proches, un espace de dialogue, un espace de parole sécurisé qui leur permet d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis, leurs attentes, leurs besoins, que que le procès pénal n'a pas pu prendre en compte. Les questions du pourquoi, du comment demeurent effectivement essentielles.
Et alors du coup, vous, c'est en 2014 que vous avez été à la maison centrale de Poissy pour rencontrer trois détenus.
Moi, ça a été un souhait de m'engager dans cette démarche-là, justement, parce que je voulais entendre, comprendre et dire un certain nombre de choses. Donc tout ça, au fil du temps, le recul le permet. Ça a eu lieu en mars 2014, donc 5 lundis à la centrale de Poissy, en sachant que ça serait pas le meurtrier de notre fils, parce que ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on estime encore insurmontable. Autant de se retrouver en face de meurtriers d'autres personnes, mais pas de notre drame à nous. C'est un cap qu'on ne peut pas passer, vous voyez, qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas encore passer. Le premier jour, donc, quand nous, on est arrivés les premiers, on était installés autour de cette table ronde, donc il y avait encore leur place. Donc, quand ils sont arrivés, alors, le premier qui arrive, en plus, il était blessé, il arrivait avec une canne et puis il tirait la jambe. Donc, de ce côté-là, ça nous a impressionnés aussi, parce qu'on s'attendait à voir des montagnes, quoi, des gens. Et puis, en fin de compte, non. Alors, après, bon, chacun a pu se présenter, chacun a pu dire qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé. Et puis, de leur parler, nous, de notre vie au quotidien. Les meurtriers avec lesquels on a pu discuter, eux nous disaient que, au bout d'un certain nombre de temps qu'ils étaient en prison, ben quelque part, ils oubliaient un peu ce dont pourquoi ils étaient là. Ils étaient là. Parfois, c'était pas loin de l'affrontement verbal. Je sais qu'il y a un moment, un des détenus qu'on avait en face de nous se lève presque en colère et puis dit « Mais c'est moi la victime !» Alors là, je vous assure qu'il y a eu un tir croisé des trois que nous étions, avec les deux dames qui m'accompagnaient, en lui disant « Mais attendez, là, faut pas retourner les rôles. Vous, vous aviez le choix. Nous, on n'a pas eu le choix. Nous, on a subi. » Le lundi d'après, il arrive en courant. Il avait travaillé. Et les propos qu'il tenait ont quand même bien évolué. C'est un petit peu ce qui nous intéressait aussi. Leur expliquer ce qu'on vit. Que nous, la plaie ne se referme jamais. Il y a toujours des choses qui nous rappellent ce qui nous est arrivé. Et de faire en sorte que le jour où ces gars-là sortent de prison ne recommencerait pas. Ce qu'on leur a dit, est-ce que ça a suffi? Mais ils nous ont tous promis, presque juré, qu'ils ne recommenceraient plus. Après, la vie, c'est malgré tout des humains. C'est aussi ce qu'on en a ressorti.
Vous arriviez à les voir comme des humains et pas juste comme des meurtriers?
Oui, il faut le dire comme ça. C'est un tournant dans la vie, ça. C'est compliqué. Parce que quand on l'explique aussi à des amis, à des collègues, ils disent « Oulala, moi j'aurais jamais pu faire ça. » Après, ils ont jamais vécu non plus un drame tel qu'on l'a vécu, nous. Mais ça surprend quelques-uns, certains comprennent, d'autres comprennent pas. Ils disent « Mais pourquoi ça t'a amené à quoi ?» Ben, ça a amené à comprendre. En tout cas, ça les a marqués. Ça s'est ressenti au fil des séances par rapport à leur comportement, qui s'est beaucoup apaisé. Moi, vous voyez, où on se retrouvait dans une salle en haut quand on arrivait, et je m'étais aperçu un moment, à travers une fenêtre, qu'il y avait la cour de promenade. Et puis à un moment comme ça, au début d'une réunion, d'un lundi, où je leur dis, vous allez voir comment Roméo il va arriver, et vous allez voir, vous allez être surpris. Puis quand ils l'ont vu, au niveau de son habillement et puis de sa coiffure, il y avait vraiment de l'originalité.
C'était mis en beauté pour nous revoir.
Tout à fait, oui. Mais il y a eu un changement de comportement. Donc, rien ne peut être négligé. Et rien ne doit être mis de côté. Et c'est quand même l'élément clé dans ce qui nous a poussé à participer à ces rendez-vous de justice restaurative. C'est un peu une mission, vous savez, qu'un bon nombre de familles de victimes ont quand même dans l'esprit. C'est pas un devoir, mais presque, vis-à-vis de la société, par rapport à notre vécu, pour que les autres ne subissent pas ça. C'est un moment de vie qui restera gravé à tout jamais. Non, on va sur la terrasse, peut-être.
C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé. J'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour. Alors, j'ai tiré encore 4 fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parût. Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur.
Des hauts murs gris, des grandes fenêtres avec des barreaux. On arrive devant une grande porte cochère. Entrée, maison centrale Poissy, située à 30 mètres. Et voilà l'entrée. Les drapeaux français, européens.
Je te fais appel.
Bonjour, j'ai rendez-vous avec Madame Lorenz. Par là ?
Voilà, par là.
Merci.
De rien.
Bonjour, oui. Bonjour. On est où du coup ici ?
Alors là, on est au PCI, donc le poste de contrôle et d'information qui est l'entrée pour accéder à la détention. Donc c'est là où on fait les contrôles de sécurité.
Vous êtes...
Moi, je suis Madame Lorenz et je suis la directrice en charge des activités du travail et de la formation professionnelle de la maison centrale de Poissy.
Il y a combien de détenus ici ?
230 depuis donc hier, puisqu'on a reçu 3 arrivants.
Et c'est quel type de peine ?
Des très longues peines. Minimum 20 ans de réclusion criminelle.
Désolé de t'embêter.
Et du coup, c'est ici que vous avez expérimenté pour la première fois les rencontres détenus-victimes ?
C'est ça, tout à fait, en partir de 2010.
On pose tout dans les bacs ?
Oui.
Bonjour Marie.
Donc là, on est au niveau de la zone accès parloir pour les détenus.
Bonjour, c'est Maurice. Très
bien.
Allez-vous.
Bonjour. Bonjour. C'est le bâtiment d'hébergement. Il n'y en a qu'un.
Donc c'est là où il y a les cellules.
C'est ça.
Adjoint à tous les postes, s'il vous plaît, pour le premier étage.
Les mesures donc, de justice restaurative, ça a pour objectif...
C'est pour qu'ils se rendent compte que ce qu'ils ont fait a eu un impact donc, vis-à-vis des personnes. Alors il faut savoir qu'en France... Les détenus ne rencontrent pas leurs propres victimes. Ils rencontrent des victimes d'autres auteurs, mais de faits équivalents. On choisit donc des personnes déjà qui ont bien évolué au niveau de leur parcours d'exécution de peine, qui ont accepté leur incarcération, qui ont reconnu les faits, qui ont commencé à travailler même sur leur passage à l'acte, mis en place même des suivis psychologiques, enfin en tout cas un certain nombre de choses en place. On est vigilant sur le choix de ceux qui participent. Nous, on voit en tout cas l'impact positif que ça a sur les personnes détenues qui participent à ce dispositif.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous laisse là. Je passe à l'extérieur.
Ok, ça marche.
D'accord. Ça va ?
Oui.
Fatigué ? Comment ça se fait ?
J'ai des études, donc j'ai du travail en retard. Je me suis couché assez tard.
Faites des études de quoi ?
Philosophie.
Vous vous appelez comment ?
Thomas.
Vous avez quel âge ?
42, bientôt 43.
Vous êtes ici à Poissy depuis combien de temps ?
Depuis 2003.
Vous en avez encore pour longtemps ici ?
J'ai pris perpète, donc bon, ça ne finit pas.
Vous avez été condamné pour quoi ?
Pour assassinat.
Vous avez participé à ce qu'on appelle les rencontres détenues victimes ? Qui sont en fait une mesure de justice restaurative. Qu'est-ce qui vous intéressait dans le fait de rencontrer des victimes ?
C'était la démarche, à partir de ces rencontres, j'ai pu me construire autrement. Ça compte beaucoup le regard, surtout de gens concernés. Quand on porte un regard humain sur vous.
Quand vous dites que vous avez pu vous construire autrement ?
Autrement qu'un criminel. Moi-même, j'ai eu la sensation de pouvoir aider en répondant à leurs questions. Et je crois que ça m'a fait du bien aussi de me dire que je pouvais aider en dépit de ma situation et de ce que j'avais fait.
Qu'est-ce que vous avez pu leur dire qui les a aidés, à votre avis ?
Que il n'y avait pas de réponse à une question commençant par pourquoi. C'est un peu se condamner à perpétuité aussi, de vouloir répondre pourquoi. Ça aurait pu être une autre personne, ça aurait pu être un autre jour, et tout l'ensemble des décisions que ça aurait pu prendre. Et savoir que c'est des questions sans fin.
Pour vous, il y a un avant et un après ou...
Ouais, ouais. J'ai senti qu'une tension que j'avais en moi, elle a été déchargée. Ça ne se mesure pas, ça ne se quantifie pas. C'est juste que d'avoir réussi à enlever une étiquette.
Une étiquette de...
Bien, d'assassin. Et j'ai eu la sensation vraiment, à ce moment-là, d'avoir pu faire la part des choses. D'avoir pu disjoindre les deux.
Qui vous étiez, ce que vous aviez fait.
Ce que j'avais fait. Avoir pu me défaire de ça, ça m'a libéré. J'ai la sensation d'être libre alors que je suis incarcéré, parce que j'ai pu réintégrer la société en un sens. Je dis pas que je marche dans les rues, mais la sensation de pouvoir faire partie à nouveau du corps social, et ça, ça n'a pas de prix.
Ça commence comme ça. Je nage dans le noir, peinard, bien au chaud dans mon cachot, souple comme le roseau, libre, ainsi que l'oiseau. Pas de limite, pas de fuite. Mais les murs arrivent, écrasent, écorchent, embrassent de force ma fine écorce. Et partent comme ils sont venus, loin de ma peau nue. Et puis viennent encore contre mon petit corps, me serrent et mâchent ma chair, faut que je m'arrache de cet enfer. Là-bas, de la lumière. Tête la première, je fonce et m'enfonce dans les ronces. Et je crie, j'entre et je sors d'un ventre. Suis-je mort? Maman, je te demande pardon, mais tu marches sur mon cordon. Je me glisse dans une trappe, juste avant qu'on me rattrape. Je m'empare d'un bout de bois bizarre, et j'avance dans le couloir. Il fait tout noir. Là-bas, de la lumière, comme un phare. Tiens, le bout de bois, c'est une guitare. Et ils sont tous là, assis devant moi, comme par hasard. Ok, je vais vous raconter une histoire.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Avoir pu me défaire de ça, ça m'a libéré. La sensation vraiment d'être libéré.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis le deuxième.
Vous êtes le deuxième, bonjour.
Pardon, bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Manu. J'ai 53 ans.
Vous vous êtes incarcéré depuis quand ?
Depuis 98.
Il vous reste combien de temps encore ?
Il me reste 12 ans. J'arrive vers la fin.
Vous avez été incarcéré pour quel motif ?
Pour viol. Ouais. Quand on est condamné, mais on n'a aucune mesure des autres, finalement, de leur souffrance, de ce qu'ils peuvent subir au jour le jour. Il a fallu cette rencontre pour le comprendre. On se rend compte que la souffrance s'arrête pas. C'est quelque chose qui n'a pas de fin toute leur vie et ils souffriront.
Vous n'étiez pas rendu compte de cette souffrance avant, en fait ?
Non. Une souffrance comme ça, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à une souffrance, mais j'ai l'impression qu'on ne veut pas la voir. Il y a une sorte de déni de la souffrance. On sait que les personnes ont souffert, mais on ne veut pas s'en charger. Il y a une forme d'égoïsme, quelque part. On pense qu'on est les seuls à souffrir, on pense qu'on est les seuls à subir une peine, on pense que le monde extérieur est un monde presque idyllique, et puis on peut se remettre comme ça de choses, évidemment que non. Et la réalité, c'est jeté à nous, c'est quelque chose qui... Ça a été vraiment un choc pour moi. Évidemment que la peine, on l'a... Il y a déjà un phénomène de honte, déjà, d'être en prison, d'être emprisonné, d'être mis au banc de la société. On s'accommode, évidemment, on fait bonne figure, parfois, on reste droit. Mais au fond de nous-mêmes, quand la porte de la cellule se ferme, eh ben, c'est la peine qui est là, qui nous pèse. Quelle que soit la démarche qu'on fasse, on est toujours, avant tout et pour tout, un prisonnier. Et on ne peut que souffrir. Donc ça, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Il y a besoin de cette parole, il y a besoin de dire les choses. Et au fil du temps, au fil des séances, il y a eu 6 séances, bah, les choses se sont décantées et on a pu repartir apaisé, vraiment apaisé. On a réussi à s'embrasser à la dernière séance. Moi, je les vois toujours comme des personnes qui nous ont apporté vraiment une grande aide. Ouais. Et je ne pourrais pas oublier, ça c'est sûr.
Merci beaucoup en tout cas.
La dignité doit rester au cœur de la pénalité. La dignité de la victime, à qui l'État doit protection et une part de la réparation. La dignité du condamné, qui doit pouvoir réintégrer le corps social. Et cette dignité-là, elle est inscrite dans une peine tournée vers l'avenir. Pour la victime, pour la société, pour l'auteur. Platon lui-même disait déjà que celui qui punit judicieusement, punit en vue de l'avenir, de façon à ce que le coupable ne retombe pas dans l'injustice.
Bonjour.
Je vous en prie.
Je suis Olivia Mons et je suis responsable de la communication à France Victimes.
Anciennement l'INAVEM.
Anciennement l'INAVEM. C'est la Fédération nationale des associations d'aide aux victimes et de médiation. En 2010, l'INAVEM a vraiment souhaité mettre en œuvre des expériences de rencontres détenues victimes, donc une des formes de justice restaurative. Cette justice restaurative, elle nous vient de pratiques ancestrales, aussi bien dans le nord chez les Inuits que dans le sud Pacifique, avec les Maoris notamment. Et l'idée était vraiment de permettre aux personnes de restaurer quelque chose de la société et des liens sociaux pour faire en sorte que la société n'exclue pas totalement l'un de ses membres, mais qu'on puisse dialoguer et retrouver une forme de sérénité et d'apaisement. Retrouver l'humanité qui est dans la personne condamnée derrière l'acte monstrueux qui a pu être commis. C'est une rencontre, c'est un dialogue, c'est pas unilatéral, c'est toujours réciproque. Et ça doit toujours être réciproque, sinon ça ne fonctionne pas. C'est un mouvement d'évolution de la justice d'État qui se dote d'une nouvelle solution, d'une nouvelle modalité d'aide aux victimes. C'est aussi une nouvelle modalité d'accompagnement des personnes condamnées.
Dont on avait bien besoin, on peut dire.
Oui, la justice restaurative et très certainement, pour une grande part, l'avenir de la justice pénale.
Mesdames et messieurs, voilà, c'est ce qu'attendent les Français. Des solutions efficaces. Non pas le cynisme des manipulations et des accusations démagogiques. Des solutions efficaces. Non pas de la diversion, des solutions efficaces.
De la compagnie.
Ah, c'est le petit chat.
Oui, une coquine.
Je m'appelle Stéphanie, j'ai 40 ans. C'est le papa de mon fils qui était assassiné à son domicile et mon fils était présent. Il avait 4 ans. Il a passé la nuit à côté du cadavre de son papa. Il y a eu un procès. Il a pris 20 ans de prison, et c'est ce qu'avait demandé le procureur, donc c'est vrai, de ce niveau-là, pour moi, la justice avait été rendue.
Mais c'est vrai qu'en tant que victime, avec le recul, on n'a pas été écouté. Ça passe très vite, on n'a vraiment pas le temps de comprendre ce qui arrive, quoi. J'étais pas assez préparée pour dire ce que j'aurais voulu lui dire, par exemple, et je le ferai jamais, donc c'est vrai que c'est difficile. On est vraiment livré à nous-mêmes. Que ce soit la justice, toute l'instruction. Jamais rencontré le juge d'instruction, pardon. Rien. Quand on m'a appris le décès, c'était au commissariat. Et on m'a laissé repartir comme ça avec mon fils, parce que du coup, il l'avait récupéré. Et donc après l'audition, donc j'apprends tout ça, et plusieurs heures. Et bon, bah rentrez chez vous, on vous rappellera. Et voilà.
Vous êtes rentrée seule avec votre fille chez vous?
Alors, j'ai pas pu rentrer. Je me suis arrêtée à un McDo, Quick, je ne sais plus. Il a été joué et j'étais là, tout tourné autour de moi. Et j'ai appelé mes parents. Je sais pas où je suis, venez me chercher. Je sais même pas comment ils ont fait pour me retrouver parce que je savais même pas où j'étais en fait. On a dû me donner des coordonnées de. Un papier, tenez, ça c'est la. L'aide aux victimes. Mais en fait, je ne me considérais pas comme victime. Pour moi, la victime, c'était mon fils. Mais c'est vrai que je n'ai jamais tapé à la porte d'une association, ni jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, en fait. France Victime m'a contacté. Et bon, voilà, pendant 2 ans, on s'est contacté, vu régulièrement. C'était la première fois que je faisais quelque chose pour moi. Je me suis dit que j'avais rien à perdre, de toute façon, et qu'il fallait tenter. Et je pense qu'on s'est... mutuellement aider les uns les autres.
Ça vous a permis de comprendre quoi, vous, alors, du coup?
Que c'était pas forcément des monstres. J'ai ressenti, à la fin, beaucoup d'humanité, quand même. C'est vrai que c'est bizarre, je peux pas l'expliquer, mais moi, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a enlevé un poids, quand même. Jusqu'à ces rencontres, en fait, j'y pensais tous les jours, constamment. Et suite à tout ça, j'ai pris du recul, et c'est vrai que j'y pense... plus. C'est toujours là. Ça restera toujours là. Et en fait, je pense que jusqu'à ce que voilà, je fasse tout ça, j'avais peur d'oublier, en fait. Passer à autre chose, pour moi, c'était oublier. Et je voulais pas oublier parce que on peut pas oublier, de toute façon. Mais c'est vrai que je le prends autrement. J'ai envie d'avancer. Je veux refermer. Ça fait 10 ans et je veux vraiment passer à autre chose. J'ai d'autres choses à vivre et... Aujourd'hui, je me sens vraiment différente. Il y a un poids vraiment qui est parti, c'est... Ouais.
Je crois à nos silences vagabonds. Je crois au bruit que ça fait la vie. Je crois à ce qu'on partage, horizon déglingué. La tête des nuages que tu traduis pour moi. Je crois à l'huile jetée sur le feu, au temps gagné à le perdre à deux. Je crois à ce qu'on partage, odyssée déglinguée, au visage des nuages que tu traduis pour moi.
Merci à tous et à toutes. Et si jusqu'à présent il n'y a eu que 4 sessions de rencontres détenues victimes, le décret d'application de la loi paru en mars dernier va peut-être permettre que ces mesures sortent de la confidentialité et donc permettre à d'autres détenus et à d'autres victimes de se reconstruire.
C'était Comme un bruit qui court. Laissez-nous vos messages sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au podcast et retrouvez toutes les infos sur le site franceinter.fr. Après les infos, rendez-vous avec Daniel Morin et nous on se retrouve samedi prochain à 16h.